L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle « Oh Mother ». Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire non cédé du Nyon-Intio, aussi appelé Québec, en compagnie de Myriam Leland. Bonsoir Myriam!
Bonsoir Christelle!
Je suis tellement heureuse de te retrouver en studio!
Ben, plaisir partagé. Je suis vraiment contente de venir prêter main forte pour remplacer Mathilde.
Oui, notre collaboratrice habituelle à la mise en onde et à la console et puis à la co-animation est en vacances en Gaspésie. On la salue!
Oh, bonsoir Mathilde!
Et pour nous, à Québec ce soir, eh bien, on a préparé toute une belle émission. Je te résume, Myriam, ce qu'on fait ce soir.
Oui, s'il te plaît.
On commence l'émission avec trois artistes, Marie-Josée Gustave, Ute Wolf et Anne-Yvonne Jouan. Ce sont des artistes qui travaillent le papier, le textile et qui font partie de l'exposition de fil et de papier qui est en montre présentement au Centre Materia. Et ce, depuis vendredi dernier, le 12 avril.
Mm-hmm.
Puis on poursuit l'émission encore dans le papier. On reçoit Alexis Vanas qui fait partie de l'expo Paperholic, une expo qui s'appelle Paperholic Obsession du papier. Qui
a été... À Villa Bagatelle,
oui,
c'est ça?
Oui, oui, mm-hmm. Qui est en montre à Villa Bagatelle, mais qui a été montée par la Guilde. Donc, c'est une expo qui circule depuis 2022 et qui réunit 11 artistes dans sa première édition. Maintenant, c'est 15 artistes. Donc, c'est un gros show, tout sur le papier.
Oh, intéressant.
Donc, on va avoir une belle discussion sur la matière qui va se poursuivre avec Alexis Vanas. Et puis, on termine l'émission avec notre chroniqueur Valérie Giroux, qui nous a proposé un compte-rendu d'un recueil de textes. Alors, c'est un peu inusité pour l'aérospatiale, mais on la reçoit avec son idée, puisque je pense que ça va nourrir des réflexions pertinentes. C'est un recueil qui est intitulé « Art, public et culture numérique », qui est un recueil qui aborde le flux d'images et la vie des œuvres, la réception par les publics, la pérennité, notre rapport, en fait, à l'espace numérique, mémoire,
c'est assez intéressant
relation.
À mettre en relation avec les deux autres sujets de l'émission qui sont sur le papier. Puis là, on parle un peu plus du numérique.
Matériel, immatériel, notre rapport à l'art.
J'ai hâte de l'entendre.
Moi aussi, c'est un recueil qui a été publié sous la direction de Suzanne Paquet et d'Alexandrine Théoret aux presses de l'Université de Montréal.
Et dis-moi, Christelle, qu'est-ce qu'on écoute ce soir? C'est toujours Simon Roy qui nous fait des magnifiques sélections musicales.
Toujours des découvertes qui sont dirigées d'abord par une liste de lecture que cultive Simon Roy ici, technicien mélomane à CKRL depuis très longtemps. Il nous propose des pistes qui sont tirées d'un album qui s'appelle Monument Movement, un album du groupe Rank O, qui est un band de Tours en France, qu'on décrit comme animé par une connaissance des structures complexes héritées des avant-gardes musicales des années 60 à 90, mais qui cultive un amour sincère pour les chansons pop, les mélodies immédiates, tantôt espiègles, tantôt joyeusement minimalistes. Écoute, moi, la description...
Je suis curieuse. Oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Donc, on écoute tout de suite la piste For Every Blow.
Oui.
Et au retour, on fait l'entrevue sur l'exposition qui est en montre à Materia.
Toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro et en studio dans Limoilou, à CKRL 89.1. Et je suis rejointe via visioconférence par deux artistes, Marie-Josée Gustave et Ute Wolf. Bonsoir toutes les deux.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très apprécié. Comme on en discutait hors d'onde pendant la pause musicale, vous faites partie de deux des expositions dont on parle ce soir, donc à la fois de Fil et de papier qui est en montre présentement au Centre Materia et ce jusqu'au 12 mai, mais aussi vous faites partie du collectif d'artistes qui présente Paperholic Obsession pour le papier, Obsession papier, qui est aussi en montre à la Villa Bagatelle. Est-ce que vous pourriez peut-être accepteriez-vous de commencer par introduire votre pratique? Je voulais choisir entre vous laquelle aimerait d'abord commencer.
Peut-être Marie-Josée, puisque c'est la commissaire aussi de l'exposition de Fil et de papier.
Eh bien, bonsoir. Moi, en fait, je travaille uniquement le médium papier depuis... J'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, mais en pratique, on va dire professionnelle, depuis une quinzaine d'années. Et je suis fascinée par ce médium, en fait, qui est un peu arrivé dans mon parcours artistique, un peu par défaut, parce que je suis formée en production du vêtement. Donc, c'est le textile, en fait, les tissus qui m'attiraient au départ. Et quand je suis arrivée au Québec, finalement, je pouvais pas trimballer tous mes tissus avec moi. Donc, je me suis rabattue un peu sur le papier. Et puis, finalement, c'est devenu une passion. Donc, j'ai commencé par utiliser le carton. Et puis, une fois que j'ai fait le tour du carton, je suis passée au fil de papier. Donc, en ce moment, je travaille le fil de papier. Mais récemment, la pulpe de papier est entrée dans ma pratique. Donc, je suis une passionnée de la matière papier.
Je vous remercie pour cette belle présentation du parcours, en fait, qui vous a amené à cette matière. J'ai lu dans un article qui a été publié dans Le Devoir sur la première édition de Paperholic Obsession Papier, la journaliste disait que vous aviez une approche plus formelle, plus formaliste que d'autres qui peut-être travaillent moins conceptuellement. Mais pour vous, il y a vraiment une recherche formelle avec le papier.
Je dirais que ce qui est exposé à la Villa Bagatelle dans l'exposition Obsession Papier est je pense, un premier jet de quelque chose de figuratif, on va dire, et de plus réfléchi, je vais dire ça comme ça, parce que d'habitude ma démarche est à l'inverse, c'est-à-dire que je manipule la matière et ensuite je pense à ce qu'elle évoque pour moi. Et là, en fait, j'ai fait le processus inverse pour ces œuvres-là, qui, en passant, avaient été exposées à la Biennale du Lin de Portneuf au printemps dernier.
Merci. Et pour vous, comment décririez-vous votre démarche?
J'enchaîne tout de suite. J'aimerais juste revenir sur ce que Marie-Josée vient tout juste de dire. C'est peut-être ça la belle complémentarité aussi des deux expositions. Dans l'exposition à matériaux de filets de papier, c'est plutôt une exposition, je dirais, avec un focus sur l'art textile ou la création textile. Et là, peut-être pour certaines, c'est pas nécessairement mon cas pour les œuvres qui sont présentées, parce qu'ils font partie du même corpus dans les deux expositions, mais c'est des fois plus l'action de la transformation de la matière qui est porteur peut-être, et puis qu'on y trouve une signification. Paperholic, Obsession Papier à la Villa Bagatelle, c'est plus une démarche art visuel, œuvre d'expression, parce que des fois, ça peut être du métal, mais ça évoque l'idée de la feuille du papier, ou ça peut être la sculpture qui évoque l'idée. Donc là, on est vraiment dans une autre approche. Mais pour certaines, vu qu'on est comme trois artistes qui sont présents dans les deux expositions, donc il y a un beau métissage. Donc c'est vraiment pour des amateurs du papier, mais qui sont intéressés à s'ouvrir l'horizon parce qu'on voit vraiment une belle diversité. Mmh. Et pour ma part, moi je suis d'origine allemande et j'ai fait des études en fait, jusqu'à la maîtrise en design textile. Donc, à la base, c'est vraiment l'approche de... Donc, j'étais formée pour travailler dans l'industrie textile. Donc, j'ai touché autant au tissage comme à la sérigraphie ou la teinture ou autres techniques. Et ce qui m'a accrochée au projet d'exposition d'itinérance de fils et de papier, que déjà mon projet de maîtrise, je l'avais nommé le langage du fil. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est aussi la transformation de la matière. Et j'ai eu un parcours, j'ai fait ma maîtrise en broderie. Donc, j'ai vraiment réfléchi sur l'impact du fil, aussi sur ce regard de haut qu'on porte souvent sur les textiles, parce que c'est quelque chose qui nous contourne depuis qu'on est au monde. On les porte, donc des fois on pense de bien les connaître. On a du torchon jusqu'à l'œuvre d'art du Moyen-Âge. Il y a dans toutes les facettes, donc raviver ce regard et de rentrer dans la structure du textile, parce que dans mes études aussi, même par mes pairs des fois qui étudiaient un design industriel ou autre, pour eux, on travaillait le deux-dimensionnel, mais moi, je le voyais plus comme des mini-architectures parce qu'on créait l'étoffe en accumulant des fils de chaîne et de trames qui, eux, sont déjà trois-dimensionnels. Donc, il fallait avoir une réflexion sur cette structure-là. Et je travaille aussi souvent quand je montre mes créations, je plonge dedans comme si ce sont des paysages pour qu'on comprenne la volumétrie, ça se dit. Et les œuvres pour ma part qu'on peut voir dans les deux expositions, et ça c'est nouveau pour moi des dernières, je dirais 4-5 ans, ça sort vraiment d'une démarche narrative, ce sont des œuvres d'expression. Donc, j'ai un peu plus tourné le dos au design, à l'objet usuel, parce que je faisais des luminaires aussi auparavant. Et là, je suis dans l'expression. Et là, c'est à travers tout mon parcours depuis mes études, c'est toujours la transformation de la matière. C'est toujours encore ça qui est mis en avant, mais je veux véhiculer une émotion, une sensation. Il y a un côté narratif qui est fort présent dans ma démarche aujourd'hui.
Oui, ça se sent beaucoup dans l'expérience de l'exposition que j'ai faite au Centre Materia. Marie-Josée, avant de terminer cet entretien avec vous, est-ce que vous aimeriez nous partager votre intention commissariale quand vous avez réuni ces artistes au Centre Materia avec votre pratique? Vous êtes aussi parmi les personnes qui présentaient. Votre souhait, en fait, c'était lequel?
Mais en fait, il y en avait plusieurs. Il y avait donné une place au métier d'art qu'on retrouve pas, il y a changé la vision que les gens en ont en montrant des œuvres sculpturales qui sont d'une extrême finesse de mon point de vue, sortir de l'idée du métier d'art utilitaire et montrer qu'on peut faire de la sculpture. Il y avait remettre de l'avant ces techniques de fil qui sont un peu communes et j'irais mal considérées aussi. Puis le rôle de toutes ces femmes qui ont développé ces techniques, et puis il y a aussi le fait que le matériau papier commence à devenir depuis quelques années remis à sa juste place, mais c'est ça, je suis passionnée par les métiers d'art et la matière papier, donc je voulais vraiment mettre ça de l'avant et puis montrer le travail d'artistes qui sont inconnus parce que elles font des choses esthétiques. Mais pas que, elles ont un propos dans leur pratique et je voulais qu'on voit ça. C'était très important pour moi. On fait de l'art conceptuel, mais avec la matière et avec un savoir-faire. C'est ça qui était important.
C'est tout à fait réussi. Je pense que c'est la meilleure façon de terminer cet entretien. Ça hameçonne, j'espère, une partie du public qui n'aurait peut-être pas fait le détour ou pris le temps d'arrêter à Materia. On invite tout le monde à aller voir cette exposition.
Oui,
votre travail très, très impressionnant. Et puis l'intention ou les intentions que vous avez investies dans l'exposition sont tout à fait reçues par le public. Je vous remercie à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Nous, on se quitte en pause musicale avec une deuxième piste de Rank O. Et au retour de la pause, on poursuit l'entretien au sujet du papier, mais cette fois avec l'artiste Alexis Vanas.
We'll be right back.
toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro avec Myriam Leland à la console. Grande experte de retour des années où on a co-animé ensemble. Et avec d'autres, merci en tout cas Myriam d'être avec nous ce soir.
Mais ça me fait plaisir.
On est en studio aussi avec Alexis Vanas. Bonsoir Alexis.
Salut Christelle.
Ça va?
Ça va bien toi?
Oui, très très bien. Je suis très heureuse que tu aies accepté à brûle pour point notre invitation. Parce que il se passe plein de choses en fait de ton côté. C'est vraiment une période d'activité, là.
Ouais, c'est assez riche, là. Autant j'ai pu participer à la Foire plurale.
Oui.
Bon, j'ai eu la bourse Première Ovation pour mon projet Repères et Liaisons. Je participe à une exposition collective qui s'intitule Paperholic, Obsession Papier.
Ça jase.
Commissariée par Geneviève Duval. Et,
exact.
C'est vraiment, oui, c'est, ça roule, ça va bien. Ouais.
Mais, félicitations pour la bourse Première Ovation,
merci
d'abord.
Beaucoup.
Est-ce que tu as le droit de glisser un mot sur ton projet en exclusivité?
Oui, certainement. Là. Ben, en fait, Repères et Liaisons, je pense que ça part tout d'abord d'une expérience qui est personnelle. Tu sais, bon, mon passé, est-ce qu'il est? Ça, j'ai pas toujours. Été dans un idéal où bon ça va bien à l'école etc. J'ai eu mon passé bon les méandres de la consommation puis bon de mon côté j'ai l'impression que c'est comme un chapitre qui était derrière moi puis là, plus le temps avançait mais je chantais petit vertige après l'université il y avait quelque chose qui me manquait puis j'avais besoin de ce contact là humain avec tu sais sortir de l'atelier de pas juste penser à créer une œuvre d'art tu sais de penser à faire de l'art mais de le vivre d'aller à sa rencontre tu sais puis de voir les possibles aussi là tu sais quand on sort d'un espace qu'on contrôle aussi là,
mais oui,
d'une certaine façon là.
Le confort de parler entre nous ou entre les pairs dans le milieu artistique ça aide parfois à découvrir sa voix mais c'est le fun aussi d'en sortir.
Ah, ça fait du bien. Puis bon, c'est ça pour pas trop m'égarer. C'est un projet relationnel qui va se déployer dans un centre d'hébergement à Montréal. Ça s'intitule En Marge. Puis c'est un lieu qui accueille des jeunes entre 14 et 21 ans. Donc ces jeunes-là sont sans domicile fixe. Puis ils vont là pour trouver le soin dont ils ont besoin, le support aussi là pour se réinsérer dans la société. Puis comment ça va se passer tout ça? Ben j'ai proposé des ateliers de création, autant art placé que des ateliers d'écriture. Donc je pense que ça va être plein de beaux moments de s'ouvrir, de partager, tu sais, le communautaire qui va vraiment me permettre de documenter tout ça aussi. Donc, ça va se déployer à travers le photographique, l'écriture. Donc, mais tu sais, c'est un projet relationnel, donc je vais y aller avec le flow. On va voir comment ça coule d'abord et avant tout.
On peut pas tout déterminer d'avance quand on s'aventure d'abord dans la relation.
Exact. Puis tu sais, forcément, je pense que je vais devoir faire face aussi au rejet, tu sais, c'est, écoute, moi, je vais être un peu un intrus, donc, on va avoir beaucoup de manœuvrage, tu sais, à travers tout ça. Puis, tu sais, c'est des lieux qui sont super protégés aussi. Donc, la priorité, c'est ces jeunes-là, tu sais. J'ai un projet, oui, mais c'est vraiment le contact que je vais vraiment prioriser avant tout. Puis, c'est pour ça que c'est un projet qui va évoluer pendant un an. Donc, à voir comment, puis, il n'y a pas de deadline non plus. Donc, à suivre.
Écoute, c'est un privilège que tu nous en parles. Je pense qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour savoir comment ça avance.
Avec plaisir.
Mais entre-temps...
Shotgun pour l'entrevue l'année prochaine.
C'est noté.
Mais entre-temps, on peut parler de ce qui se passe avec ta matière de prédilection, le papier?
Oui, le papier, ça fait longtemps que j'ai comme commencé à explorer ça. Ça a débuté quand j'ai entamé mon bac à Concordia. D'ailleurs, il y a une des œuvres qui s'intitule Héraclide et l'une d'entre elles, c'est une des premières œuvres que j'ai faites en papier.
Qui est présentement en montre à Villa Bagatelle.
Exact.
Ah, ouais, ouais.
L'œuvre plus petite, là, c'est une de mes premières que j'ai faites.
Hey, sais-tu quoi? On dirait pas.
C'est vrai?
Parce que c'est sûr que ton travail a évolué, mais je pense que dès le départ, il y a comme un moment magique qui s'est passé.
Ouais, ben écoute, ben, tu sais, c'était un projet qui était assez... personnel, Héraclide, c'est comme un personnage dans la mythologie grecque qui est censé représenter une force physique aussi. Puis je pense que ce moment-là, c'était un moment de vulnérabilité que je me permettais aussi. Tu sais, rendu à l'université, c'était comme un tremplin assez, encore une fois, j'ai réutilisé le mot, mais vertigineux parce que je venais de sortir de thérapie. Tu sais, j'étais dans la consommation, j'ai fait 6 mois de thérapie. Puis après ça, c'était l'université.
Ah, le clash des
direct, mondes. Direct. Ah oui. Puis tu sais, bon, moi, je me valorisais pas par mon intellectualité ou mes capacités scolaires. Donc, Puis c'est aussi c'était bilingue, c'est pas bilingue,
ouais,
c'était
ben,
Concordia, c'est surtout anglophone. Ils disent que c'est tu peux parler, tu sais, c'est français et anglais, mais c'est surtout anglophone, on s'entend. C'était un peu tabou.
Puis toi, t'arrives de Drummond, t'es un Québec francophone.
Exact. Ouais.
Avec là, t'as vécu un petit choc des cultures.
Ben oui, oui, oui. Mais tu sais, j'arrivais un peu de nulle part aussi, puis veux pas. Je pense que ben tu sais, on est beaucoup en marge. Encore une fois, je réutilise le mot, mais tu sais, quand on est dans ce genre d'univers-là, dans la consommation, puis tout ce qui vient avec, on est vraiment à distance du milieu scolaire. Tu sais, on est loin, très, très loin de ça. Donc, ben écoute, j'ai pas eu le choix de m'adapter, puis d'aller à la rencontre de la diversité, des différentes réalités.
Ouais.
Tu sais, on est beaucoup... C'est un gros processus là, puis là tu sais la consommation, tu sais on est beaucoup centré sur soi, puis veut pas, on fait ce qu'on peut aussi, tu sais. Donc voilà.
T'as rencontré une forme de force dans le travail artistique, c'est là la métaphore avec Héraclide, puis
Ouais, ben je pense que c'était un moment où je me permettais surtout de vivre mes émotions, puis tu sais de comment je pourrais dire, de déconstruire un peu cette personne-là, tu sais, que comme, ah non, je vais avoir mon indépendance, je vais être capable, tu sais, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de la société, j'ai pas besoin de la communauté, tu sais, fait que tu sais, c'était un retour à la réalité quand tu sors de thérapie, là. Puis je pense que c'était une façon de déconstruire tout ça, je pense, surtout.
Puis le papier, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que c'est au détour d'un cours, d'un atelier, d'un apprentissage, d'un essai-erreur. C'est quoi? C'est un accident d'atelier?
Ben je pense que cet amour-là du papier... je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc je suis beaucoup dans cette idée de d'abord vivre l'expérience. Donc, puis avec le papier... c'est tactile, on travaille avec la pulpe, avec l'eau, tu sais, il y a quelque chose de sonore aussi dans l'ambiance, c'est super apaisant, puis tu sais, c'est très physique aussi, puis le geste répétitif, je pense qu'il y a quelque chose pour moi de thérapeutique, tu sais, je vais pas dire que je tombe dans une transe non plus, mais tu sais, c'est, il y a quelque chose qui, tu vas avec le senti, tu t'es dans l'action là, tu sais, tu te contentes de ça là,
tu te concentres sur la matière parce que c'est elle qui dicte le rythme, les prochaines étapes.
Mm-hmm.
Moi quand je regarde ton travail, j'ai tout le temps l'impression que ça doit être découpé au laser ou que tu sais il y a une intervention numérique parce qu'il y a une forme de précision que le travail artisanal parfois exige, mais que c'est pas tous les artistes qui ont le doigté pour faire ça. Maintenant que je te connais un peu mieux, que je t'ai vu travailler avec d'autres matériaux, je sais que tu es capable d'être très méticuleux.
Ouais.
Fait que tu fais ça tout à la main.
Ouais, c'est ça. Puis c'est un petit peu c'est un beau rituel parce qu'en fait, c'est des grandes feuilles de papier parupier que je fais là, moi-même. Donc ça implique un espace adapté. Donc je fais ça dehors, mais c'est chez mes parents aussi. À chaque été, je vais sur l'étang familial, je sors tout mon équipement avec mon système hydraulique, puis je fais mes feuilles de papier à la main. Puis c'est ce qui est. Je pense qu'aujourd'hui, surtout avec la conscience. Écologique, tu sais, c'est important de savoir d'où notre matière première provient, là. C'est puis ça va être en éventualité là. Je pense que je vais explorer aussi c'est quoi les espèces indigènes, tu sais, sur le territoire, tu sais, de encore une fois, c'est d'aborder les possibles. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut créer avec ce qui se trouve autour de nous. Mais c'est ça. Ouais, je pense que.
Bon, alors on doit conclure l'entrevue parce que le temps nous a filé entre les doigts. Sauf que j'aimerais qu'on parle de ton expérience à Plural, qui est nouvellement Plural, anciennement la Foire Papier.
Mm-hmm.
Donc, tu as trouvé ta place pour la première fois dans cette édition-ci.
Ouais, ben écoute, ça fait du bien parce que j'ai toujours porté un peu le chapeau vu que ma sœur est porte-parole, on m'associe facilement avec ma sœur.
Ça doit être facile.
Forcément,
pour
c'est une
toi.
Figure, c'est une figure publique aussi, donc on dit le frère à Karine. Mais bon, tu sais, c'est. Fait que là, je sentais que tu sais j'avais ma place puis que j'avais.
C'était un rendez-vous.
Je sortais un peu de cette chaise là, donc ça c'était vraiment gratifiant. Puis encore une fois, Projet Casa, Daniel Lizot et Paul Hamelin, des êtres humains extraordinaires qui m'ont encore une fois donné une opportunité d'exposer mon travail, puis tu sais, de parler de ma démarche, puis tu sais, ça c'est en compagnie aussi de mes pères, tu sais, des gens du milieu, tu sais, je sors de l'université, donc c'est tout un monde à découvrir, veux pas, donc c'est vraiment enrichissant.
Oui, parce que je rigole un peu par les présupposés qu'on a sur les relations, les connexions, à quel point ça aide, mais c'est ton travail qui est la vraie, qui est le vrai porte-parole de pourquoi tu t'es rendu à ces étapes-là, si rapidement après la sortie de tes études, c'est la qualité du travail, puis la profondeur de la démarche, puis du propos. Mais en tout cas, félicitations.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment un plaisir.
Ben, c'est le fun, puis on se revoit l'année prochaine.
Yes, sans faute.
On part en pause publicitaire, on écoute une tune et on revient au retour avec Valérie Giroux.
CKRL 89.1.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal d'Andrea Superstein.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle Oh Mother. Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, Myriam Leland à la console, et on écoutait une piste du groupe Rank O de Tour des Français. C'est pas mal pop et agréable. En troisième segment d'émission, on accueille Valérie Giroux. Allez Valérie, c'est à toi.
Ça marche pas. C'est pas grave, je vais vous le mimer, guys.
On a reconnu Valérie Giroux. C'est très habile de ta part.
Ah, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Bonjour Christelle. Bonjour Alexis. Ça va bien? Oui. Non, ce n'est pas Marie-Louise Arsenault qui est au micro en ce moment. C'est bien Valérie Giroux qui aujourd'hui va tenter de faire sa première chronique littéraire de tous les temps.
Ben, de toute l'histoire des dernières années de l'aérospatiale, on n'a pas fait de chronique littéraire. Donc, effectivement, c'est la première depuis très, très longtemps.
Oh mon Dieu. C'est la première de l'émission et c'est la mienne surtout. Donc, je vous l'avoue, ce soir, je réalise un fantasme, celui de me prendre pour une journaliste littéraire. Comme vous avez pu le deviner, j'étais une grande fan de « Plus on est de fou, plus on lit », cette émission de radio qui me permettait de voir la vie à travers la littérature, un médium qui, pour ma part, m'oblige à briser le rythme effréné de la vie, du quotidien, et aussi de donner un break à mon cerveau qui est 99% du temps « overstimulé », comme nous tous. Alors, le livre que j'ai choisi de faire ma chronique dessus, ça c'est une belle phrase, est art, public avec un S, culture et culture numérique, publié par les presses de l'Université Montréal en mai 2023. Donc, le livre est en fait un résultat d'un projet de recherche qui s'appelait art public, art urbain et culture numérique, et qui avait comme objectif de mettre en lumière les rapports entre l'art visuel, plus particulièrement dans un contexte d'art public, et la culture numérique. Un domaine qui commence à avoir de plus en plus de valeur aux yeux de nos dirigeants. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches, comme une bonne journaliste littéraire, j'ai trouvé un article de la presse datant de octobre dernier, donc 5 mois après la parution de l'ouvrage, qui nous disait que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, venait de libérer un montant de 34,3 millions de dollars pour investir dans les arts numériques, qu'il nommait comme un secteur en pleine expansion et la culture de l'avenir. Ce sont des objectifs gouvernementaux qui concordent très bien avec les observations faites dans le recueil. Notamment, on observe qu'il y a le développement d'un marketing territorial qui est de plus en plus agressif de la part des villes dans un monde où les images se partagent à vitesse grand V sur les plateformes socio-numériques. On nous explique comment les gestionnaires de villes prennent la balle au bon et exploitent ce flux d'images constant qui sont même pas obligés de produire, qui est produit par tous et chacun. Donc, à plusieurs reprises, pendant ma lecture, la géographe en moi fut agréablement surprise, car oui, j'ai aussi une formation en géographie. Je ne fais pas que des chroniques littéraires. Donc, bien que le texte aborde plein de cas, études de cas très différentes, c'est d'ailleurs une des forces du recueil, il y a une notion qui revient souvent, c'est le fait que la culture, l'espace numérique, aujourd'hui, peut être décrit comme un lieu réel, un endroit où il y a des rencontres, des échanges, et où ces actions ont définitivement un impact dans le monde physique. Que ça soit par rapport aux cartes virtuelles qu'on nous propose avec Google ou que proposées par les villes, qui font qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se perdre dans un espace, ou qui vont faire en sorte que certains lieux vont devenir des points d'intérêt, tandis que d'autres vont rester dans l'anonymat. J'ai aussi vu le concept de scripting space qui met en lien l'utilisation du langage, la sémiologie comme outil de conceptualisation du territoire, mais surtout comme manière de contrôler celui-ci. Par exemple, dans le livre, on a un exemple avec les graffitis qui, avec la force des mots, au départ, les graffitis, on le sait, c'était une pratique illégale, vandale, mais aujourd'hui, on l'a revalorisé. C'est de l'art public, c'est de l'art populaire. On a même fini par institutionnaliser la pratique jusqu'à en devenir des murales qu'on connaît subventionnées. Sinon, il y a aussi les pratiques in situ, par exemple, dans les cas de performance dans l'espace public. On a un exemple dans le livre, dans un contexte de gouvernement totalitaire en Roumanie, où le gouvernement voit les performeurs dans l'espace public, les voit un peu comme des gens dangereux, puis qui doivent faire l'objet de répression. En fait, en Roumanie, on va restreindre l'accès à certains lieux publics parce que le gouvernement veut simplement mieux manipuler, contrôler le message. Dans le cas précis des performeurs, on voit comment la sphère socio-numérique devient super intéressante dans un contexte où on peut se regrouper sur des communautés en ligne, faire du partage d'informations. On voit aussi le pouvoir des images et aussi la force de l'utilisation des lieux réels, les lieux tangibles, les lieux qu'on distingue, contrairement aux lieux anonymes. Alors, en mettant en scène leur performance dans des espaces reconnaissables, ça vient ancrer l'œuvre dans le lieu, puis les deux deviennent indissociables, ça donne une plus grande force à leur art. Voilà. Donc, dans cette lecture qui aborde la relation entre les espaces virtuels et physiques dans la pratique d'art public, toutefois, donc je me permets, j'aurais aimé, malgré que c'était super intéressant et j'ai adoré, j'aurais peut-être aimé qu'on s'intéresse aussi à un niveau plus anthropologique de la chose, parce qu'on est beaucoup dans des observations sur des groupes ou je dirais des groupes, c'est le bon mot. Moi, j'aurais aimé entendre des récits individuels, avoir accès à l'impact peut-être plus psychologique, psychique, de l'intégration de ces paramètres numériques comme nos téléphones sur l'esprit individuel des gens. On aurait pu faire, par exemple, un comparatif entre un artiste dans les années 80 qui allait dans un autre pays faire une résidence, par exemple en art public, versus un artiste de nos jours qui va vivre exactement la même expérience, mais avec les paramètres qui sont changés. Peut-être que ça aurait pu être même un TikToker, qui sait. Quoique, ça, c'est un point qui n'est pas abordé dans le livre parce que les études ont débuté avant la pandémie. Et donc, TikTok est malheureusement pas vraiment présent. On est plus dans Instagram, dans ce type de partage d'images. J'aurais aimé aussi qu'on aborde la manière que ça l'a transformé la consommation de l'or, j'aime pas dire consommation de l'or, là, mais tu sais, c'est quoi les pratiques aujourd'hui qu'on veut avoir accès à de l'or? De quelle manière ça l'a changé dans les 40 dernières années? Toutefois, on a fait une comparaison super intéressante sur la notion de mémoire. Alexis, je sais que ça t'intéresse. Donc, dans le chapitre 2, vie et mort du monument à l'ère des réseaux sociaux, on amène des notions de transformation de mémoire. Comme les médias sociaux numériques sont des nouveaux agents de mémoire qui produisent, réactivent, entretiennent et véhiculent différentes versions du passé, et comment ce rapport à la mémoire a un impact direct sur nos identités, en opposition avec le concept de mémoire collective qui, lui, est fait par un groupe X qui va transmettre son passé à la nouvelle génération. Puis pendant la transmission, bien, on va réactualiser l'identité du collectif. Mais j'ai l'impression que peut-être que de nos jours, c'est un peu plus difficile de trouver son identité puis d'avoir la passation de mémoire comme ça, étant donné que nos identités sont tellement multiples puis on s'identifie à plein de choses justement dans le monde du virtuel. Donc ça peut être encore plus difficile quand il est question de l'étonation là, de s'identifier à...
Mais là, tu me tends une perche que je ne peux pas résister. Vas-y. Magirou. C'est-à-dire que le monument, en fait, est un de mes intérêts personnels par rapport à ma démarche performative. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Monument politique, poème, performatif, où on s'intéresse à performer et à réactualiser, à transformer le contre-récit ou le récit qui est constamment réactualisé par le monument dans l'espace public. Puis une des questions qui me préoccupe beaucoup, c'est pourquoi ils sont encore aussi potents, là? Pourquoi ils dégagent autant de puissance dans l'univers, surtout touristique? Pourquoi ces œuvres-là, monumentales, statuaires, sont encore perçues comme des ancrages de l'identité d'un collectif? Pourquoi les gens qui viennent visiter Québec sont encore à se prendre en photo dans Google Images devant les mêmes monuments du colonialisme, avec les mêmes personnages que l'on pourrait retrouver ailleurs en Espagne ou dans toutes les autres colonies de l'Amérique, des Antilles, etc. Donc, pour moi, il y a une grande question de d'où vient cette puissance-là réitérée, alors que, bon, nos œuvres d'art public, que ce soit celles qui sont installées à l'heure actuelle par des artistes contemporains, n'ont pas ce facteur-là identitaire qui leur est associé. Bien qu'elles se retrouvent, elles aussi, dans Google Images, elles n'ont pas le même poids pour la mémoire puis la construction d'un récit collectif. Mm-hmm. C'est vraiment... Moi, c'est quelque chose qui me fascine, les dynamiques dans l'espace public de nos ancrages, de nos marqueurs artistiques.
Ben oui, mais justement, ça va faire partie de ton identité après un certain moment. Quand tu as grandi avec la face du vieux Gepetto qui représente, on le sait plus, les gens ne savent même plus trop qui ils sont, mais dans le livre, on parlait beaucoup de justement le fait qu'on peut réactualiser en faisant des actions qui sont pas toujours dans la légalité, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas réactualiser l'identité collective en prenant action. Puis, tu sais, c'est pas juste le fait d'enlever une statue qui va régler les problèmes, même qu'au contraire, on suggère beaucoup de remplacer, parce que le vide se fait ressentir. Mm-hmm. Donc, il faudrait remplir ça avec quelque chose qui implique la population, personnellement, je trouve, là, d'impliquer les gens, ce serait la plus belle des choses.
Il y a un très, très bel exemple qui est mon exemple préféré que j'ai trouvé, qui est un exemple torontois. C'était un collectif qui s'appelait Life of a Craphead. En tout cas, vous comprenez qu'ils se prenaient pas trop au sérieux, les deux. Puis eux, ils ont eu la permission de déboulonner une sculpture d'un des empereurs, empires colonial, je sais pas lequel exactement, mais ils ont eu le droit de la trimballer, en fait, dans la rivière à canot pendant plusieurs centaines de mètres avant de la réinstaller, et ça a été documenté. Donc, le fait qu'ils aient inondé la sculpture et qu'ils l'aient traînée à bout de pagaies pendant un certain territoire vient informer la vie de cette sculpture-là. Moi, à jamais, va transformer mon rapport à cette sculpture. Puis au potentiel, en fait, de transformation narrative, de gestes quand même assez simples, mais très subversifs. Et donc, moi, c'est ça qui m'inspire. Ce n'est pas tellement le déboulonnage, enlever les têtes, asperger
les actes symboliques
de peinture rouge, mais plutôt de réfléchir à comment réinformer, ajouter des couches de récits pour que l'histoire soit au moins multiple autour de ces monuments.
Ben écoute, c'est une des merveilleuses portes qui est ouverte grâce à ce merveilleux livre Art public, culture numérique. Donc, est-ce qu'on a le temps pour que je continue un petit peu?
Ben, il reste 30 secondes. J'aimerais bien que tu nous fasses une conclusion.
conclusion, on parle pas d'art de création avec du AI, l'intelligence artificielle. J'espère que ça va venir. Le recueil est découpé en 3 sections, espace public, plateforme, photographie et urbanité. Je pense que c'est de... Il faut s'intéresser à l'espace numérique, ça prend de plus en plus de place dans nos vies. On est influencé par ça, on peut voir comment... dans le day-to-day, nos actions sont transformées par les nouvelles devices, je parle juste en anglais, qu'on a à chaque jour, mais on remarque pas l'impact de nos actions sur le territoire, puis il y en a un. C'est pas juste quand on rentre chez soi, puis quand on est dans l'intimité, que ça change nos habitudes, ça change notre manière de vivre la ville, puis comment la ville se construit.
Ah, oh, mais ça, c'est une superbe conclusion. Ah. Merci, Valérie. Je pense que c'est un succès, ta critique.
Ah,
oh,
mon Dieu, merci de m'offrir ce micro. Ouais.
Donc, pour tous ceux qui vous souhaitent lire, c'est un livre qui s'intitule « Art, public et culture numérique, flux d'images et vie des œuvres » par Alexandrine Théoret et Suzanne...
Paquette,
publié aux presses de l'Université de Montréal. On part en pause musicale et au retour, c'est l'agenda de la semaine. À l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, Myriam Leland à la console. On est prête pour vous partager l'agenda de la semaine. Il y a quelques événements dont j'ai envie de dire beaucoup de choses parce que c'est riche cette semaine. Il y a de quoi être actif presque tous les soirs. On commence avec une expo de Sama Sadi, Micro Contact, qui a été vernie vendredi dernier, mais qui est en montre jusqu'au 20 avril à la Charpente des Fauves. J'y étais, ça vaut la peine. Au printemps 2023, la Charpente des Fauves a offert son premier prix dédié à un finissant du bac en arts visuels et médiatiques ou au bac en enseignement des arts plastiques de l'Université Laval. Le prix offert était une résidence d'un mois et demi ainsi qu'un accompagnement technique par la Charpente. Donc, c'est très généreux. Mm-hmm. C'est dans le cadre de cette première édition que la Charpente a l'honneur d'accueillir Sama Sadi. L'expo Micro Contact présente les plus récentes expérimentations de Sama, dans lequel il tente d'actualiser le sens du toucher, de la proprioception en relation avec des appareils audiovisuels comme une grosse caméra vidéo, un gros haut-parleur, une immense projection en taille surdimensionnée. Donc, l'image de Sama est plus grande que nature. Mais on est en relation très frontale avec lui sur la projection, puis il est placé dans l'espace un peu comme un prof de Zumba, là, t'sais. Donc on a comme soudainement envie de faire les gestes qu'il fait. En tout cas, moi, j'ai...
C'est adoré. Dans quel espace de la Charpente?
C'est au deuxième, je pense.
OK, ouais.
Mais tu sais, tu prends des escaliers, bon, tu te ramasses à la bonne place. Non, c'est sur le même étage que le pieu.
D'accord.
Et l'atelier de couture de la Charpente. Je pense que c'est le premier étage. Donc, visant à établir un contact le plus direct possible avec les appareils, Sama s'est retrouvée à produire des vidéo-performances et des audio-performances captées et présentées dans la Galerie Fauve. Les œuvres de l'exposition mettent ainsi en œuvre les stratégies employées pour créer des relations étroites entre les appareils, le corps de l'artiste et, j'oserais ajouter, le corps des regardeurs, mm-hmm. parce que ça fonctionne, ce qui est créé comme relation. Allez-y. On continue. Jeudi 18 avril, dès 17h, à Espace Parenthèse, il y a un vernissage de l'exposition De ce côté des listes, listes étant L-I-C-E-S, de Jeffrey Poirier, en collaboration avec les étudiants et étudiantes de l'équipe sportive Les Dynamiques. Cette exposition est le résultat d'une médiation culturelle entre l'artiste Jeffrey Poirier et 12 étudiants et étudiantes du Cégep de Sainte-Foy, membres des équipes sportives des Dynamiques. Fasciné par les aspects structurés et émotionnels du sport, Jeffrey Poirier a initié un atelier où les participants devaient représenter graphiquement le souvenir de leur meilleur match sous forme d'un diagramme circulaire. Partant du principe que la structure d'un match est constamment liée aux émotions de l'athlète, cet atelier visait à illustrer de manière créative et abstraite la façon dont les participants ressentent le rythme de leur sport. Les graphiques résultants, inspirés des repères traditionnels du sport et de l'état d'esprit des athlètes, mettent en lumière l'auto-analyse nécessaire à la performance sportive.
C'est bien cool.
Ouais, c'est très cool.
C'est vraiment unique comme projet.
Ouais. Puis le terme liste, ça désigne la délimitation d'un terrain sportif. Donc, ça donne le titre à l'exposition, puis ça offre un regard intime sur le vécu des athlètes en marge du public. Les œuvres géométriques de l'exposition évoquent l'équilibre, l'unité, la cohésion présente sur le terrain, en intégrant les travaux des étudiants. Donc, les travaux faits par les étudiants sont présents, sont mélangés aux œuvres de Jeffrey Poirier. Certaines pièces schématisent des éléments sportifs connus, tandis que d'autres reflètent l'énergie, la discipline nécessaire à une carrière sportive compétitive. C'est des œuvres qui évoquent l'unité des athlètes vers un objectif commun, proposent des défis au niveau d'intensité variée. En tout cas, moi, la description, je sais pas c'est qui a écrit, là, mais c'est...
Ouais, très clair, ça donne le goût. C'est tellement
en bouche.
C'est vraiment original comme projet. En plus, avec le relationnel, le sport qui est rarement relié aux arts aussi. Là.
Puis d'amener les athlètes à une démarche autoréflexive qui utilise la représentation, le dessin.
Ouais.
Déjà, on est dans des traductions à travers des disciplines et des univers qui se parlent pas d'habitude.
Surtout à une période formatrice comme quand on est au cégep, tu sais, d'avoir cette réflexion-là sur ce que le sport peut nous amener.
On aime le cégep.
Parfois.
On continue jeudi. Donc, si vous n'êtes pas allé à Espace Parenthèse à 17h pour le vernissage, vous pouvez aller au 6 à 8 au Café Saint-Suave. Il y a une grosse invitation pour un lancement de livre qui s'intitule « Sexualité et dissidence queer » avec Chacha Henriquez, Guy Tardif qui va nous parler du cruising gay, Phil Després qui va parler de la répression locale de la nudité artistique, Marie-Philippe Drouin de Divergence qui va nous parler des résistances locales contre le backlash transphobe. Donc, vraiment des thèmes là, gros. L'équipe qui est derrière ça dit « On lance une brique comme nos adelphes à Stonewall l'ont fait. » Donc, on se prend pas pour de la chenoute, mais c'est vrai, c'est des propos qui sont foncièrement politiques dans l'heure actuelle. C'est des gens qui portent des flambeaux, qui mènent des luttes dans leur champ disciplinaire respectif.
Mm-hmm.
À la jonction des savoirs universitaires et militants, ce livre entend démystifier l'emprise qu'exercent les normes sur nos sexualités. L'ordre sexuel comporte un ensemble de règles souvent tacites, régule les dimensions les plus intimes de nos vies, de quoi est-il constitué et surtout qu'a-t-il comme effet sur certains membres de la société. Donc, c'est un ouvrage collectif qui a comme effet de mener des réflexions, de libérer des pratiques sexuelles et amoureuses, de partir de la sociologie, de la sexologie, du travail social, puis d'y amalgamer une perspective de terrain. Donc, je pense que le lancement, sinon la lecture de ce livre, est à recommander à tout le monde. On continue l'agenda de la semaine avec vendredi 19 avril en mode 5 à 7 à la Chambre Blanche. La Chambre Blanche nous invite pour une soirée de clôture où sera célébré le travail de Jannick Byrne qui va nous parler des moments forts de sa résidence de recherche au Centre de documentation de la Chambre Blanche. Jannick, c'est une artiste, commissaire et autrice qui a mené une résidence de recherche du 10 janvier au 10 mars dernier. Elle est originaire de l'Outaouais. Elle est Anishinaabekawi. Et elle réside présentement à Jujuy, Montréal. S'intéresse à la relation entre le corps, le cadre, qu'elle aborde par une approche réflexive et dialogique de la performance, de l'image et de l'écriture. Au cours de sa résidence, elle a poursuivi ses recherches sur le hors-champ et les espaces de lecture. Elle s'est questionnée sur leur potentiel de contourner ou de dépasser les contraintes normatives. Donc, ses observations et ses idées émergentes ont été une source d'inspiration constante, non seulement pour le centre La Chambre Blanche, mais aussi pour la communauté artistique élargie de la Ville de Québec. Et c'est de là, notamment dans sa période de résidence, qu'est née la dernière activité de l'agenda de la semaine. Samedi le 20 avril dès 16h, il y a une rencontre-discussion entre Jannick Byrne et Marie-Claude Gendron qui était en performance de longue durée pendant plus d'un mois au lieu Centre Actuel avec la perf Faire mon lit. Donc, Jannick et Marie-Claude vont avoir une rencontre-discussion très informelle autour de l'exposition « Faire mon lit ». Il nous convie à poser un regard éclairé sur les intentions et les forces agissantes à l'œuvre dans le travail de l'artiste Marie-Claude Gendron. Dans une ambiance décontractée, donc dès 16h, on peut se joindre à ce beau dialogue. Donc, moi, j'ai très hâte. Voilà, voilà.
Une bonne respiration avant de terminer l'émission, Christelle.
Mais c'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produit et diffusé par moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1 et ce soir, Myriam Leland. Merci Myriam pour ce bel épisode ensemble.
Ben merci à toi de m'avoir réaccueilli en studio.
Toujours un grand plaisir. On remercie surtout nos invités Marie-Josée Gustave, Uté Wolf, Alex Ivanas. Un merci spécial à notre chroniqueur Valérie Giroux. On se laisse sur une dernière piste de Rank O intitulée Springs, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Propriétaire de Alimentex, une boutique spécialisée dans les produits naturels et les aliments biologiques. Je suis honoré d'être le porte-parole l'affaire du Radioton 2024 de CKRL. Cet événement revêt une importance capitale pour notre communauté. Je vous invite chaleureusement à manifester votre générosité envers cette station qui est à la fois un pilier culturel et communautaire essentiel de Québec. Je compte sur votre engagement et votre générosité. Merci.
Le vendredi 26 avril, c'est à la Korrigan que ça se passe. Dans le cadre de la Semaine des bières de microbrasserie du Québec, on vous invite à la toute première édition du Tap Takeover Estival de la Korrigan. Dès 16h et pour toute la soirée, ce sont 11 microbrasseries des quatre coins de la province qui prendront le contrôle de nos 13 lignes de fût avec des produits sélectionnés spécifiquement pour l'arrivée de l'été. Tous les détails au korrigan.ca et sur notre page Facebook.
Nous sommes en 1917. Première guerre mondiale, révolution russe. Moscou est le noyau de grands bouleversements sociaux. À huis clos, Nina, Treplev et Trigorine, un triangle amoureux figé dans le temps, espèrent un avenir meilleur. Dans une mise en scène mêlant le concert, le théâtre et l'art vidéo à grand déploiement, retrouvez les protagonistes de La Mouette de Tchekhov 15 ans plus tard. Nina ou de la fragilité des mouettes empaillées, au Théâtre Périscope du 9 au 27 avril, une production de La Tralée et de Carte Blanche. Billets en vente maintenant.
Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impérial Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$.
Envie de boire un café de spécialité, fraîchement torréfié? Le Café La Maison Smith est un micro-torréfacteur de la Ville de Québec qui vous offre une gamme de cafés distingués et riches en saveurs pour faire vos cafés à la maison. À Limoilou, l'option vrac est maintenant disponible. Cette succursale est un milieu de vie intégré incluant des espaces multi avec ses salons de coworking, la buvette et l'aire de torréfaction. Allez vivre l'expérience chez Smith ou rendez-vous au smithcafé.com.
CKRL. Cette semaine,